Bonjour, bienvenue à M l'été, mercredi 28 juin, notre troisième émission de la saison. Ici Chantal Lavoie, toujours heureuse de vous retrouver. En cette première semaine qui nous plonge de nouveau dans nos habitudes estivales, on profite de l'heure qui suit pour explorer de beaux sujets. On explore notamment les moyens de rendre le tourisme accessible à tous, à ceux qui n'ont pas si facilement le vent dans les voiles. On va échanger aussi avec un invité qui en a long à dire là-dessus et on accueille notre première chronique de l'été aussi en compagnie de Lisiane, c'est des choses qui arrivent, on continue. On va quand même aussi parler de d'autres belles choses, notamment avec un auteur-compositeur-interprète très particulier, Jesse Murray. Alors voilà, on en reparle après la pause. En fait, c'est ça, c'est qu'au début, finalement, je nomme pas nécessairement les invités, mais là, je les ai dans ma deuxième partie. Voilà, donc, Élisiane Pellerin, oui, qui viendra chaque semaine nous parler des sujets destinés aux personnes en situation de handicap, mais des sujets qui peuvent intéresser tout le monde aussi. Alors, une façon de sensibiliser tous et chacun à différentes réalités, à d'autres façons de vivre. Également, donc, il sera question d'un organisme qui vise à rendre le tourisme plus accessible aux personnes à mobilité réduite, Kéroule, qui est un interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme du Québec en matière d'accessibilité. Mais d'abord, et oui, je vous parle de Jesse Murray. On fait la rencontre de ce chanteur et musicien qui s'intéresse aux mots des poètes disparus. Alors, je vous invite à vous joindre à nous. Voici Aime l'été. Alors voilà, on l'a à l'autre bout du fil. Jesse Murray, bonjour.
Salut Chantal, salut bon. À toute l'équipe.
Ben c'est agréable de vous retrouver finalement. En fait, vous êtes quelqu'un qui est parti de la Gaspésie pour vivre maintenant à Calgary. Vous avez quand même tout un parcours, vous êtes quand même très jeune aussi. Alors, on va parler de ce parcours. D'abord, on est là pour parler d'un album francophone, sur des mots de poètes disparus. Alors, très intéressant que votre approche. Vous avez également sorti en janvier 2023 un album aussi anglophone. On va en entendre d'ailleurs dans le courant de notre émission. Et puis, c'est ça, puis on va entendre un extrait aussi de votre album « De la mort à l'amour ». Voilà. Alors, c'est ça. Donc, on va parler de votre parcours parce que c'est quand même pas banal, finalement. Ça veut dire que vous étiez un jeune qui vous intéressiez à la poésie, à la lecture, quand même des poètes d'autrefois. On parle de poètes français aussi, d'auteurs, tout ça, des Lamartine, des Ronsard. Enfin, c'est pas commun.
Oui, justement. Que de beaux textes. Et puis, depuis un tout jeune âge, 10 ans, j'ai tombé amoureux de Brassens, et puis à la guitare à la main, je me suis familier avec les paroliers. Puis, des paroliers, j'ai tombé au classique, Lamartine aussi, Ronsard, comme tu dis. Et puis, c'est une affaire de toute ma vie, je pense.
C'est ça, mais à quel âge vous vous intéressez à ce genre de lecture?
La lecture, peut-être 16 ans, ça a commencé vers 16-20 ans. Et puis, c'est récemment que je me suis replongé dans tous ces maîtres-là pour voir si je pourrais faire comme certains musiciens et puis les remettre en chanson.
C'est ça, parce que c'est quand même de passer des mots à la musique et de mettre ça, d'harmoniser ça, c'est quand même aussi particulier parce que c'est quand même de la poésie. Et mais vous vous êtes intéressé, vous écoutiez beaucoup aussi de chansons françaises, je pense à Brassens.
Oui, justement, je connais tout, surtout les vieux classiques, là. Guy Béard, et puis Michel Sardou aussi, puis tous ces gens-là, puis il ne faut pas oublier nos chansonniers à nous autres, là, les Canadiens français, Claude Léveillé, puis Jules Vigneault.
Félix Leclerc.
Puis Félix Leclerc, bien entendu. Puis Jean Leloup, encore plus proche, oui.
Mais aussi d'autres, des chanteurs, des anglophones aussi. On pense à Bob Dylan qui vous a influencé également. On pense à Gordon Lightfoot, Leonard Cohen.
Ah oui. D'abord la voix de Leonard Cohen, puis ses textes. Gordon Lightfoot, sa musique incroyable. Ah oui, oui, ça m'a... Puis, c'est sûr que Dylan, je pense qu'il n'y a personne qui l'a écouté qui n'a pas été, qui a pas été ébranlé par, ouais. par son œuvre.
Et ça allait chercher peut-être aussi bon, l'adolescent que vous étiez à l'époque?
Oui, là, ouais, le côté rebelle, la guitare autour des feux, les accords faciles, puis surtout des musiques qui prêtent à danser, en tout cas dans mon cas, puis à chanter tout en cœur. Tous ces maîtres-là, c'est d'abord la musique qui prime. Ben, c'est drôle qu'il y a tellement d'emphase sur des textes qui sont grandioses, mais j'ai essayé de tout mon mieux de faire ressortir une musique qui de rechef va donner plus de feeling, plus d'explosion à ce grand texte-là, à ces grands textes.
C'est ça. Parce que vous-même, vous avez quand même été auteur, bon, vous êtes auteur, compositeur, interprète, c'est-à-dire que vous écrivez en même temps aussi vos chansons. Mais là, vous avez eu envie de passer à autre chose, de donner vie aux mots des autres.
Ouais, ben, j'écris toujours en anglais et en français, mais je pense que c'était mon devoir de commencer. C'est un grand remerciement à tous ces grands poètes-là de les remettre en chanson, puis de les faire entendre, écouter par d'autres, prendre connaissance. J'espère que ces musiques-là vont d'abord capter l'oreille, et puis ensuite peut-être approfondir une curiosité qui va pousser à aller en profondeur dans le poème, et puis à découvrir ces maîtres-là.
C'est ça. Avec une musique, somme toute, très actuelle, parce que, bon, vous avez quand même un petit côté parfois country également.
Ah oui, country. Bah, j'ai découvert le country à l'âge de 19 ans. J'ai travaillé un an et demi dans l'Ouest canadien. Et puis, c'est mon cousin Maurice Gauthier qui m'a montré toutes les contrées un peu de hip-hop. Ben, pas hip-hop, ils disent... plus de notre temps. Là.
C'est ça, exactement.
Et puis, oui, j'aime bien quelques chansons de country. Oui.
Ouais. Vous êtes vous êtes né en Gaspésie. Est-ce que vous étiez entouré de gens qui partageaient cette même culture finalement?
Ah oui, j'ai des lettrés dans ma famille. Et puis,
c'est ça, dans votre famille, papa... votre père était cinéaste. Alors vraiment, vous avez cette culture-là.
Oui. Ah oui, des beaux films, de la belle musique aussi. Un super papa autodidacte incroyable. D'ailleurs, c'est mon meilleur fan. Papy,
oui.
Là, c'est mon fan numéro un. Puis là, je vais juste commencer à apprécier sa présence. C'est vraiment quelque chose.
Ouais. Puis votre père, en fait, il jouait aussi de la musique, hein?
Ah oui, puis, violon, guitare, ah oui, harmonica, oui.
Passait. C'est quelqu'un aussi qui était un menuisier en même temps. Alors vraiment, c'est particulier parce que c'est ça. Donc, autodidacte, comme vous l'êtes devenu en quelque sorte.
Je pense que je fais la même. On a des vies en parallèle.
Un parcours, similaire et différent à la fois.
Oui, justement.
Est-ce que vous vivez de votre musique? Est-ce que vous, en fait, vous ne faites que ça?
Ah, alors là, c'est le rêve. Là, je vis à 100 000 à l'heure avec la job à temps plein, les responsabilités. Ben non, je le fais pas encore. Mais éventuellement, ça va le devenir. Il s'agit juste de prendre les choses un jour à la fois, puis bien comprendre l'échiquier.
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a fait vous diriger après ça à Calgary? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est les rencontres? Bon, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous a amené à Calgary? Je suis curieuse.
L'amour. Bah, c'est d'abord le désir de parfaire la langue anglaise, et
okay.
puis les arts martiaux, et puis l'amour, après ça, les enfants, et puis, la responsabilité. Et
c'est
puis,
là, ça, donc la famille, oui.
Ben oui, puis là, je suis dans un parcours de vie où là, que j'ai le temps là, de m'approfondir dans la musique plus, puis... Ben, le partager surtout, hein. c'est vraiment ce que je veux faire. Je ne veux pas les chanter seulement pour moi, ces chansons-là.
Puis d'avoir aussi ces deux cultures, c'est très intéressant, en fait, de mettre tout ça ensemble.
Ça fait notre force, nous, les Canadiens français. Nous, on maîtrise l'anglais et le français. Ça fait une force, il y a une force dans la mélodie que les Français de France n'ont pas.
Ouais. Vous avez donc sorti un album en janvier dernier en anglais. Et vous avez bénéficié évidemment d'une équipe de collaborateurs vraiment chevronnés, enfin des gens qui étaient, enfin vous étiez, je pense même intimidés aussi quand vous avez fait votre album là, quand vous êtes rentré en studio pour pondre l'album francophone là, ça c'est plus récent bien sûr, mais ça c'était quoi, il y a peut-être 6 mois qui se entre l'album anglophone et l'album francophone, finalement il y a 6 mois qui s'écoulent à peu près, je pense, quand vous avez cette année là,
ouais,
c'est ça.
Justement, l'album en anglais, ben moi j'ai, ben, pour faire la petite histoire courte, quand je me suis présenté au studio avec Emery, je le connaissais pas ce gars-là. Et puis la première session, quand je suis parti, il a pensé, ce gars-là, je le reverrai plus jamais. Et puis 39 chansons après, et puis là on a décidé de faire un album en anglais. D'ailleurs avec Emery. Qui est un super de
Emery Cords, oui.
Incroyable.
Emery Cords. C'est ça, exactement. Parlez-nous-en de vos collaborateurs là, qui ont travaillé avec vous. On pense, Patrick Creef, Nicolas Ferrand.
Oui, toutes mes amis de Montréal, c'est tous des musiciens aguerris.
C'est ça, Liam O'Neill.
Liam O'Neill, Nicolas Ferrand. Et puis. La belle Olivia Coury avec la voix qui m'accompagne sur la chanson Le Baiser, ça, c'est tellement,
ouais.
C'est tellement
d'ailleurs,
beau.
D'ailleurs, je vous propose d'en écouter un extrait. On va en écouter un extrait, effectivement, oui.
Aimer au gré des jours, tout l'ombre, la chanson, le parfum, la lumière.
Et ça s'appelle Le Baiser, un extrait de cet album, ce nouvel album, qui va sortir quand même tout prochainement, cette semaine. Hein, ça sort cette semaine. Là.
Demain?
Oui, demain, c'est ça. Et puis, en fait, c'est ça. Ben, le 28, c'est aujourd'hui, je pense.
C'est aujourd'hui le 28?
Exact. Eh bien oui, donc ça sort sur différentes plateformes. Donc, on peut déjà aller télécharger et puis, bien sûr, c'est ça. Donc, aller entendre cette pièce, Le Baiser, et qui a été composée grâce au poème de la Française Anna de Noailles, qui est en fait une poétesse et romancière française d'origine roumaine et grecque, née à Paris le 15 novembre 1876. Elle est décédée en 1933. Et donc, voilà. Et puis, à travers ce texte, ben, elle évoque l'espoir, la désespérance, les bonheurs et les tourments. Enfin, bon, bref, c'est toujours d'actualité. Hein?
Oui.
Oui, c'est ça. Alors, donc, vraiment, vous avez aussi une autre poétesse qui est Madame de Villedieu, Marie-Catherine Desjardins, dite Madame de Villedieu. Qui a vécu, je pense, au 17e siècle, en 1640, qui est née à cette époque-là. Alors, d'ailleurs, vous avez même dans votre album anglais, là, votre album en anglais qui est sorti au début de l'année, vous aviez aussi un texte de William Blake, ce poète.
Oui, Tiger.
Oui, britannique. Incroyable. On va l'entendre, d'ailleurs, en terminant cette entrevue, oui. On va entendre cette pièce très intéressante. Alors, effectivement, poète pré-romantique britannique. Donc, effectivement, donc un parcours très particulier qui est le vôtre. Et puis, c'est ça, donc, des musiciens, comme on parlait, là, qui vraiment des musiciens très aguerris, là, qui ont travaillé avec les plus grands aussi. Ça, c'était... Et d'ailleurs, vous étiez un peu intimidé, je pense, quand vous êtes entré en
non,
studio.
Non, vraiment intimidé, vraiment intimidé. Tellement que je me suis raidi un peu, là, j'étais prêt à tout laisser tomber, là, je savais pas à quoi m'attendre. Je m'attendais à des gens qui allaient être un peu showmanship, puis qui allaient se mettre de l'avant, puis écraser l'idée que j'avais de l'album, mais tellement la patience qui m'a bouleversé, leur patience. Ils étaient en studio, là, on parle de 11 heures de temps, là, pendant 4-5 jours, là. C'était incroyable, ces gens-là. Ils sont donnés corps et âme à l'art.
Ah, c'est ça, bien évidemment. Alors, ça donne les résultats, bien sûr, avec tout ça. C'est une très belle collaboration. Alors, évidemment, donc, on rappelle le titre de l'album, De l'amour à la mort. Et puis, votre album anglophone, parlez-nous du titre.
Ah, ben oui, ça, c'est I Did It All For You. I Did It All For You avec la chanson I Did It All For You aussi. Mais si vous allez voir cet album-là, écoutez Blue Jay. C'est une de mes préférées de Tiger aussi, mais Blue Jay, là, je l'adore, cette chanson-là.
Ouais, c'est ça.
C'est une chanson que j'ai composée d'ailleurs.
Bon, hein, mais c'est merveilleux. Mais nous, on va écouter, c'est Tiger finalement qu'on va écouter, effectivement.
Ben, alors, excellent.
Ben, excellent aussi, bien sûr. Alors, c'est vraiment très intéressant. Alors, vraiment, vous avez, c'est ça, mis pour l'album francophone. De l'amour à la mort, de la mort à l'amour, je savais, j'allais dire le contraire, mais bon, de la mort à l'amour, c'est ça. Vous avez mis en musique des poèmes de poètes d'autrefois. Alors, c'est à découvrir vraiment, et puis l'album anglophone aussi. Alors, vraiment, et puis l'album francophone, on le rappelle, sort aujourd'hui, alors sur les différentes plateformes. Et bien, Jessie Mary, ça a été vraiment une belle rencontre, très agréable.
Merci.
Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos prochains projets. J'imagine que vous avez plein d'idées encore, là.
Ah oui, plein d'idées, mais mon agente m'arrête un jour à la fois. Moi, je voudrais lancer un autre album, mais un album à la fois.
Parfait. Bon, ben alors, on vous écoute entre-temps, et puis merci d'avoir été des nôtres.
Merci beaucoup, à bientôt.
C'était Tiger de Jessie Mary que nous avons accueilli il y a quelques instants. Alors, c'est ça, son album anglais, finalement, qui est sorti au tout début de l'année 2023. Alors, on accueille maintenant notre première chroniqueuse, finalement, de la saison, Élisane Pellerin. Alors, bonjour, Élisane.
Bonjour.
Bon, alors écoutez, j'ai un petit peu tout à l'heure buté sur votre nom en ouverture d'émission, je m'en excuse, mais bon, alors c'est comme ça. Vous savez, bon, on a une début d'émission, première émission, deuxième, la troisième en général, c'est ça, c'est là qu'on fait des petites gaffes.
Il faut bien les faire à un moment.
Ben
ou
oui,
un
parce
autre.
Qu'on est un peu trop relax. Alors voilà, on se dit oh ben mon Dieu, tout a bien été jusqu'ici. Mais là, c'est là qu'on perd notre concentration. Mais écoutez, bon, alors vous allez nous parler, Élisane. D'abord, on va faire connaissance avec vous parce que vous avez un parcours absolument fabuleux. Vous êtes une personne vraiment qui est une chercheuse, professeure d'université, je pense.
Hein? Oui.
Et puis vous avez fait des études au doctorat.
Oui.
Vous pensez maintenant à faire même des un postdoc, rien de moins, hein, pourquoi
rien
pas?
De moins, rien de moins, pourquoi pas? Voilà.
Pourquoi pas, tant qu'à faire. Alors, vous êtes une personne donc hors du commun, qui vous êtes un modèle de détermination, vous êtes vous-même, vous êtes en situation de handicap, paralysie cérébrale, donc c'est de naissance, et c'est ça, vous avez finalement, envers et contre tous, décidé de faire votre chemin, et puis c'est ça, puis ça vous réussit très bien. Alors, c'est ça donc, à la fois recherche, enseignement, et vous avez aussi tout l'aspect service communautaire, et vous êtes ici pour ça d'ailleurs.
C'est oui, effectivement.
C'est votre mission de l'été. Alors, c'est ça, parlez-nous un petit peu de ce parcours quand même particulier. Comment ça se passe quand vous êtes jeune et que vous décidez finalement de dire, ben moi je vais étudier, moi je vais faire quelque chose de ma vie?
Ben, pour une personne en situation de handicap, c'est sûr qu'il y a plus de défis que pour une personne en situation, je vais dire normale, là, qui a pas d'handicap. Après, je pense que les études, c'est difficile pour tout le monde, sauf que pour les personnes en situation de handicap, c'est sûr qu'il faut faire notre place, il faut prouver, il faut travailler plus fort. Il faut travailler plus fort pour prouver qu'on a notre place. On est souvent regardé de haut, les gens doutent de nos capacités. Donc, c'est sûr qu'il va falloir se prouver constamment. Okay? Et ça devient un combat le quotidien de prouver sa valeur, puis de faire face à tous les obstacles, que ce soit les obstacles au niveau des gens qui croient pas en nous d'un côté, mais de l'autre côté, bon, tous les obstacles d'accessibilité. Il faut trouver une porte accessible pour entrer à l'université, hein, juste oui. Ça, des fois, bon.
On a beau être le professeur, mais voilà. Faut arriver à temps pareil.
Faut arriver à temps quand même, donc oui. C'est un genre de choses qui, moi, m'arrive presque quotidiennement, c'est-à-dire d'avoir des problèmes au niveau de mon équipement, ou d'avoir des problèmes au niveau de l'endroit où je vais qui est pas bien adapté.
Nécessairement adapté.
Ouais. Donc, effectivement, là, c'est quelque chose. Et comme professeur, comme chargé de cours, je voyage beaucoup. Donc, c'est aussi assez cocasse d'aller au fin fond d'Afrique avec un fauteuil roulant puis d'essayer de se débrouiller.
Oh,
alors
oui.
Il n'y a absolument rien qui est adapté là-bas, évidemment. Donc, ça donne des situations assez drôles, mais c'est sûr qu'à long terme, il faut être fait solide pour être capable de vivre à travers ça, puis de trouver ça drôle, puis de continuer à rire, parce que les situations, l'une après l'autre, à tous les jours, à un moment donné, ça devient lourd hein, pour nous de vivre ça sans arrêt, puis de devoir sans arrêt se prouver, en fait, à tout le monde. Là. À un moment, c'est sûr que, bon, c'est plus lourd que la moyenne, mais on trouve la façon d'en rire, puis de...
Ouais, c'est ça, on finit par y arriver, finalement.
On finit par y arriver, puis par tourner ça à notre avantage, mais oui, il faut être fait solide.
Ouais, parce qu'en fait, bon, d'ailleurs, vous avez vous-même été, bon, juste à titre d'anecdote, vous avez raconté avoir été victime aussi d'une forme de discrimination,
oui.
Là, c'est-à-dire que, ben, évidemment, c'est pas tout le monde qui est sensibilisé, juste vous rentrez à l'hôtel, puis vous voulez une chambre d'hôtel, et puis on pense que vous êtes ivre parce
oui.
Que vous parlez comme vous parlez, et puis c'est ça, les gens pensent que, non, vous êtes en état d'ébriété, veulent pas vous louer une chambre d'hôtel, ça arrive.
Oui, ben c'est arrivé. Je ne pensais pas que ça arrivait, mais oui, c'est arrivé. Ça m'est arrivé parce que forcément j'ai un défaut de langage, parce que j'ai un défaut au niveau de mes déplacements. Donc je me déplace un peu en marchant plus croche qu'à la normale, en titubant un peu. Donc je donne un peu les signes de quelqu'un qui est ivre. mais généralement quand on me pose la question et puis que je réponds, ben non, écoutez, je suis pas ivre, j'ai juste une situation de handicap, et que les gens voient que j'ai un discours tout à fait cohérent. Il s'excuse, puis on passe à autre chose.
Voilà.
Malheureusement, dans ce cas-là en particulier, c'est pas ce qui est arrivé. Donc, effectivement, il y a eu toute une histoire de discrimination autour de ça. C'est des choses qui nous arrivent quand même relativement constamment. Donc, faut apprendre à vivre avec. Comme je vous dirais pas que j'ai trouvé drôle ce jour-là, puis que je trouve ça drôle en général de devoir me battre pour entrer dans des endroits publics, c'est très lourd. Puis bon, veux pas, ça joue beaucoup sur mon estime là. Je dois vous dire que dans les jours qui ont suivi, j'étais pas au top de mon estime personnelle.
Non, je comprends, je vous comprends très bien. Mais en fait, malgré tout, vous dites mon handicap m'a plus aidé que nuit. Ça m'a permis de faire à la fois des hautes études universitaires. Hein. Ça m'a permis d'avoir un point de vue qui est différent et de développer de la compassion pour les autres.
Oui.
Alors ça, c'est vraiment, en fait, à la fois un cadeau de la vie aussi.
Oui, ben voilà, je pense que de mon côté, à tout le moins, puis je ne veux pas parler pour toutes les personnes en situation de handicap, là, peut-être que certains ne seraient pas d'accord avec moi, mais de mon côté, j'ai été capable de m'en servir à mon avantage. Donc d'avoir des bourses gouvernementales pour étudier, de voyager beaucoup, donc d'avoir un point de vue qui est différent sur les autres, d'avoir beaucoup de compassion. Donc j'essaie de m'en servir le plus possible à mon avantage, puis de
comme
développer quelque chose de tout ça, parce que tant qu'à avoir à vivre avec toute ma vie, aussi bien en tirer le plus de positif possible.
Ouais, je vous ai entendu avec une autre universitaire, professeure aussi, chercheuse, hein, vous aviez une belle conversation, parce qu'il y en a d'autres, des gens en situation de handicap qui investissent le milieu du travail, le milieu universitaire aussi, alors imaginez. Alors écoutez, vous êtes avec votre beau toutou, beau chien Mira,
oui.
Et c'est ça, vous vous déplacez, c'est votre deuxième animal, c'est ça, de compagnie comme ça.
Oui, c'est mon deuxième chien d'assistance, donc j'avais eu avant lui un chien... qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Donc, on m'a donné un deuxième chien. Norton, qui est avec moi là, en ce moment, est mon deuxième chien d'assistance. Et je l'ai eu il y a un peu plus d'un an et demi maintenant.
D'accord. Et justement, on va parler de Mira,
oui.
Après la pause. Alors, on va aborder votre toute première chronique. Alors, on se reparle dans un instant. Alors, restez là, Élisane. C'est très intéressant.
Écoutez, aime l'été.
Alors, je continue ma discussion avec Élisane Pellerin. On parle de la mission de la Fondation Mira dans un premier temps parce que effectivement elle-même bénéficie finalement d'un chien d'assistance et puis donc beau sujet pour commencer notre été. Alors, parlons-en effectivement de la Fondation Mira qui existe depuis 40 ans. C'est les 40 ans cette année?
Oui.
Cette année.
En fait, la Fondation Mira, oui, a acheté le chenil donc, en 1975 et a commencé à donner des chiens d'assistance donc, en 1981. Effectivement, les 40 ans là, sont tout près. Et puis, c'est une fondation, là, probablement que la plupart, vous le savez, donc qui remet des chiens guides et des chiens d'assistance à des personnes qui ont différents handicaps, donc soit des handicaps visuels, soit des handicaps physiques comme le mien. Et depuis quelques années, remettent aussi des chiens pour les personnes du trouble du spectre de l'autisme, particulièrement des enfants. Donc, des chiens qui vont soutenir ces enfants-là dans leur déplacement, dans leur transition, pour rendre ça plus facile pour eux.
C'est ça. Et donc, des chiens qui ont reçu une formation fort différente aussi, par la force des choses.
Oui, les chiens n'ont pas la même formation. C'est sûr qu'un chien, pour personne qui a un handicap visuel, va être beaucoup plus formé à repérer ses parcours, alors qu'un chien comme le mien est beaucoup plus formé à m'aider physiquement. Donc, à ramasser des objets par terre, à ouvrir des portes, à m'aider à marcher ou à tirer mon fauteuil roulant, là, comme on tirait un traîneau avec un traîneau à chien. C'est un peu le même principe. Donc, ils sont pas formés de la même façon. Ils ont pas les mêmes tâches. On adapte les chiens aussi aux besoins des personnes qui y reçoivent. Donc, c'est trois programmes de formation qui sont différents chez Mira.
C'est ça. Et ça commence par une famille d'accueil. Hein?
Oui.
C'est ça, au départ, ces gens-là vont s'engager. J'en connais d'ailleurs, j'ai des amis proches qui, qui sont famille d'accueil et qui vont aider à former ces chiens-là. Et ils vont passer, le chien va passer son examen par la suite.
Oui.
Enfin, bon,
oui.
Il y a tout
les
un...
chiens ont des examens un peu comme nous à l'université. Donc, après un an en famille d'accueil, ou à peu près, ils vont aller faire un examen pour voir s'ils sont bons candidats pour être chien d'assistance ou chien guide. Et si c'est pas le cas, donc vont retourner en famille d'accueil là, pour aller vivre une retraite et vivre comme étant un chien domestique. Et dans le cas où ils ont les qualités requises, ben à ce moment-là, on va les placer dans un des trois programmes, tout dépendant de leur force, en fait.
C'est ça. Et donc, à quel âge, je sais que notre chroniqueuse Anaïs Sabourin a son chien d'assistance et elle l'a eu à 13 ans. Elle était une des premières, une des plus jeunes à l'époque là, à avoir reçu un chien d'assistance. Alors, à quel âge maintenant? Je pense que c'est on les offre assez tôt maintenant.
Oui, ben, tout moi pour les chiens, TSA, donc les chiens pour les enfants qui ont des spectres du trouble de l'autisme, on parle de chiens pour des enfants jusqu'à 10 ans. Là.
Ah, d'accord.
C'est autour de 10 ans là, que le directeur général, Nicolas Saint-Pierre, pense que à ce moment-là, c'est une bonne âge pour ces enfants-là, bien sûr, avec la collaboration des parents, on s'entend bien. Pour ce qui est de nous, nos chiens à nous, ils les donnent au niveau de l'âge scolaire, donc autour de ça, 12, 13 ans dans nos cas à nous. Et pour les enfants qui ont besoin de chiens guides, on peut aller aussi au tout début de l'adolescence pour ceux qui en ont besoin.
Donc, bon, c'est ça, c'est le fondateur et Éric Saint-Pierre hein, qui a décidé. Est-ce que lui-même, qu'est-ce qui l'a motivé, lui, Éric Saint-Pierre, à partir cet organisme-là?
Ben, en fait, M. Saint-Pierre était un entraîneur de chiens, donc plus des chiens de défense de territoire, là. Et donc, mais on lui a demandé son aide là, pour une jeune femme qui était atteinte de problèmes visuels. Et puis, il s'est rendu compte que les chiens qui venaient des États-Unis, parce qu'à l'époque, ces personnes-là, québécoises, devaient aller aux États-Unis aller chercher un chien, mais les chiens n'étaient pas du tout adaptés pour la température qu'on a ici, pour l'hiver, tout ça. Et donc, les chiens travaillaient mal ici en hiver. Et pour quelqu'un qui parlait pas anglais, c'était très difficile. Donc, on avait demandé son aide au niveau d'un chien pour le réadapter à la vie d'ici. Et il s'est rendu compte que finalement, c'était probablement beaucoup plus sympathique pour lui d'entraîner des chiens d'assistance et des chiens guides que d'entraîner des chiens de défense. Donc, il s'est rendu compte qu'il avait besoin et que c'était probablement... que lui se sentait mieux dans cette mission-là et donc a parti à Fondation Mira pour répondre aux besoins des Québécois et des Québécoises.
Et donc, ça faisait œuvre utile,
oui,
en effet.
Tout à fait.
Et puis donc, ça prend combien de temps à peu près tout ça, le processus, là, à partir du moment où on fait la demande? Là, comment ça fonctionne?
Pour ce qui est des demandes, ça peut être quand même long. On peut attendre jusqu'à 2 ans là, pour avoir un chien d'assistance. Ça dépend toujours de la demande là, des autres personnes qui sont en liste. Ça dépend aussi, il faut trouver le bon chien pour le bénéficiaire. Hein. Des fois, on n'a juste pas le bon chien. On attend quelques mois de plus pour avoir le bon chien pour cette personne-là. Et puis, par la suite, donc, Mira va nous appeler. On va aller là-bas pour faire une évaluation de nos besoins. Donc, on va être là-bas avec les entraîneurs. Ils vont vérifier de la façon dont on marche, dont on se déplace et tout pour connaître nos besoins. Et à ce moment-là, par la suite, vont nous attribuer un chien dans les mois qui vont suivre selon nos disponibilités parce qu'il faut aller en kiosque pendant plusieurs semaines.
Donc, oui, c'est
faut,
ça. Parce
il faut être disponible.
Il faut être là. Il faut,
et selon les disponibilités de Mira, parce que, comme je vous le disais, bon, il faut qu'il y ait un chien disponible également.
Oui. Et puis, bon, je sais qu'Anaïs a été logée, nourrie, et puis c'était tout à fait gratuit. Là.
Oui, c'est le cas pour tout le monde. On est logé dans le cas des chiens d'assistance à mobilité réduite comme le mien. On est logé pendant 3 semaines. Pour ce qui est des chiens guides, là, c'est 4 semaines parce que c'est un petit peu plus complexe. Donc, on est logé à bord. On a notre chambre qui est notre chambre privée, notre salle de bain, et on a 3 repas par jour complètement gratuitement. Tout le monde là-bas travaille pour nous et nous, ne payons absolument rien. Il faut savoir que les chiens d'assistance et les chiens guides coûtent extrêmement cher. Donc, on serait absolument incapable de payer ce prix-là. S'il n'y avait pas une fondation pour nous les donner, quelqu'un comme moi ne pourrait pas se payer un chien Il est entraîné.
Ça peut coûter jusqu'à facilement 30 000 $.
Oui, un chien, bon, 30 000 $ dans mon cas, parce que je marche et que j'ai un fauteuil roulant également. Donc, le chien est formé à deux types de tâches. On parle d'environ 60 000. Forcément, on peut pas sortir ça de nos poches. Hein. Ce serait impossible pour nous. Donc, Dieu merci, Fondation Mira est là pour ça. Et effectivement, pendant qu'on est là-bas, on est logé, nourri, on ne paie rien. Donc, ça, c'est grave. C'est reçoit. Ils n'ont pas de subvention gouvernementale, donc ils ne font qu'avec les dons.
Pas du tout, c'est vraiment que les dons.
Ils ne font que les dons. Et la bonne nouvelle, c'est que Mira est quand même très connue maintenant, donc ils sont capables d'aller chercher beaucoup de dons. C'est pas le cas de tous les organismes au Québec. Il y a d'autres organismes qui donnent des chiens d'assistance qui sont quand même moins connus. Donc Mira tire bien son épingle du jeu et est capable de sortir quand même plus ou moins 200 chiens par année, ce qui est énorme.
Oh, c'est énorme, en effet, oui. Alors, à ce prix-là, en plus, alors, non, parce que comme je vous disais, je connais quelqu'un qui est foyer d'accueil pour les chiens Mira. Et puis, c'est ça, ces gens-là, même, s'impliquent. Oui. Je sais que, la copine en question, elle fait des porte-clés à l'effigie de votre chien. Enfin, c'est quand même... Il y a plein de trucs, finalement, pour aider, justement,
Il y a plein de façons d'aider. Ouais. Il y a des familles d'accueil qui, évidemment, se donnent là, pour élever un chiot qui n'est pas propre et qui n'écoute pas au début. et puis, qui vont passer un an avec ce chien-là pour ensuite nous le redonner. Donc, c'est effectivement là, assez crève-cœur de faire ça. Ça prend des gens qui sont motivés.
Et ouais, pour parce ceux, qu'il faut faire le deuil de ouais, du chien qu'on a entraîné pendant des mois.
Du chien qu'ils ont entraîné. Moi, personnellement, je ne serais pas capable de redonner un chien après un an, mais Dieu merci, il y a des gens qui le font. Et puis, pour ceux pour qui ce n'est pas possible d'avoir un chien à la maison, en famille d'accueil, bien, effectivement, il y a toutes sortes de façons de faire des campagnes de levée de fonds, de participer aux campagnes de levée de fonds que Mira organise aussi, de donner dans différents commerces où est-ce qu'il y a des campagnes de fonds. Donc, tout le monde peut y trouver son compte pour donner à la Fondation Mira.
Ouais. C'est ça. Puis en fait, ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux familles d'accueil, j'ai perdu mon idée. Continuez. Non, c'est ça. Je m'excuse. Je vais retrouver mon idée là.
Par rapport aux familles d'accueil, ben voilà, c'est leur travail à eux, c'est vraiment de
d'aider. Ça, je voulais dire, ça nous donne l'idée, c'est ça que je voulais vous dire. En fait, ça nous donne, justement, ça peut donner l'idée, là, l'entrevue que l'on fait en ce moment, à d'autres familles d'accueil d'embarquer dans ce projet-là, qui est un beau projet. Et puis, effectivement, oui, c'est vrai que les gens s'attachent, mais d'un côté, le plaisir, ce que je comprends, c'est que le plaisir d'une famille d'accueil, c'est que le chien réussisse ses examens et devienne un bon chien. Pour un bon chien d'assistance.
Ils adorent leur chien. Oui.
Ils ont des contacts, c'est-à-dire ils ont des nouvelles, même quand t'es famille d'accueil, je veux dire, tu peux avoir des nouvelles.
Quand ils le veulent, bien sûr, et quand le bénéficiaire est d'accord, mais dans mon cas, à moi, là, mes deux familles d'accueil, parce que j'ai deux chiens, je suis toujours en contact avec ces familles-là.
C'est ça, et puis,
j'ai redonné des nouvelles de façon constante, puis on s'envoie des photos, puis on se partage les anecdotes. On est devenus très bons amis. Dans le cas où les deux parties sont d'accord, effectivement, c'est quelque chose qui se fait. Et puis, quand ils redonnent un chien, ils peuvent toujours en avoir un nouveau. Donc, souvent, ils passent leur peine avec un nouveau chiot tout mignon. Et puis, ils reprennent l'aventure avec un nouveau chien. C'est sûr que c'est pas facile. Puis, comme je vous dis, moi, j'y arriverai probablement pas. Mais il y a des gens qui y arrivent puis qui trouvent beaucoup de satisfaction dans ça.
De satisfaction également. Donc, il y a un processus de sélection aussi pour les familles d'accueil. Ça va de soi.
Oui.
Donc, les gens, on doit soumettre notre candidature pour être foyer d'accueil. Alors, si ça intéresse les gens qui nous écoutent, là, c'est une belle expérience, effectivement. Et puis, je pense que oui, on peut effectivement s'habituer à faire ce deuil-là. Puis,
oui,
au fond,
on s'habitue.
Parce qu'on le fait déjà en partant pour une belle cause.
Oui, voilà. De prime abord, on sait que le chien s'en va et on accepte ça. Là, c'est un contrat qu'on a. On a de la peine, bien sûr, mais on passe par-dessus pour la cause.
Ouais.
C'est une bonne façon pour les gens qui ne pourraient pas à long terme avoir un chien ou qui n'ont pas les moyens là, de payer un vétérinaire, la nourriture et tout ce qui vient avec, parce qu'un chien coûte cher, même un chien domestique.
Parce que vous devez, après ça, vous l'avez gratuitement, ce chien, mais vous devez quand même l'entretenir après ça.
Nous l'entretenons. Par contre, nous avons des bourses gouvernementales là, pour nous aider, qui vont payer quand même la majorité des frais. Mais c'est sûr que s'il arrive un accident, si un chien tombe malade, c'est des frais qui sont très, très élevés qu'on doit payer. C'est sûr que dans un cas particulier, Mira va venir nous aider, on nous laisse pas seul, mais effectivement, là, il y a eu l'entretien du chien dans notre charte.
C'est quand même important, oui, c'est ça. Donc, alors, et puis, bon, c'est sûr que pour le public en général, ce que Anaïs me partageait hier, c'est qu'en fait, ce sont des chiens quand même que c'est pas... Il faut se garder une petite réserve, oui. Là. C'est-à-dire que le public ne peut pas arriver comme un chien ordinaire et puis vouloir caresser le chien. Ils adorent se faire caresser, oui. La question n'est pas là, mais par leur maître, il ne faut pas non plus entrer dans leur bulle. Puis c'est ça qu'elle me disait, il faut qu'on soit respectueux, oui. Du chien. Donc, les gens qui disent « Oh mon Dieu, il est tellement beau, tellement mignon » et puis ils veulent le caresser et tout, je pense qu'il faut quand même respecter, oui. Cette bulle, il faut faire attention. Et ensuite de ça, l'autre aspect, c'est qu'on a l'impression que ces chiens-là, ben, travaillent, c'est du travail, ce n'est pas du travail. Pour eux, c'est comme, ça fait partie de leur vie.
Oui, mais pour eux, c'est un jeu. Hein?
C'est un jeu.
Les chiens sont sélectionnés, entre autres, parce qu'ils aiment travailler, parce qu'ils aiment faire ça. Un chien qui n'aime pas travailler, il ne deviendra jamais un bon chien d'assistance. Et donc, on va l'envoyer, Mira l'envoie à la retraite, et puis il va aller se pavaner sur un divan, puis ça va se finir là.
C'est ça.
Dans le cas de ces chiens-là, ils adorent travailler. Pour eux, c'est un jeu, et on les récompense de jouer. Donc, il faut savoir que ces chiens-là, contrairement à vos chiens domestiques à la maison, ne passent pas 8 heures seuls en cage. Là. Ils sont toujours avec nous.
Et voilà.
Donc, ils sont très contents de partir dans la journée, d'avoir quelqu'un avec eux, de rencontrer des gens, de faire travail, de jouer et de revenir à la maison. Donc, c'est pas du tout pour eux de la maltraitance, c'est loin
exactement.
De là.
Exactement. Puis là, ben, votre chien bien tranquille, bien heureux là, de se reposer pendant que vous parlez et puis tout. Alors non, c'est ça, c'est une fausse impression que ces gens-là, que ces chiens-là,
oui.
Ne sont pas nécessairement heureux ou enfin travaillent,
oui,
sans
arrêt. Oui, ils sont très heureux, ils travaillent parce qu'ils veulent bien.
Voilà, exactement. Sinon, ils n'auraient pas été sélectionnés tout court, de toute façon. Alors, ben écoutez, on va, j'imagine, avoir l'occasion de poursuivre cette belle discussion. Élisane, on se retrouve à chaque semaine, de toute façon. Alors, ce sera un autre sujet la semaine prochaine, mais quand même, on aura des occasions de reparler de votre chien et puis de parler de Mira. Alors, les 40 ans cette année, donc c'est possible de donner, c'est possible d'être foyer d'accueil. Alors, vous avez toutes les infos sur le site de Mira, pas de problème. Merci, Élisane.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Au plaisir.
Longtemps tu attends ce qui ne vient jamais. Chasseur d'ombre, chasseur de fantômes. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, vis-le. Le temps t'échappe, le temps court, le temps s'enfuit. La chance apparaît, puis disparaît. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Tout de suite, dans l'instant, tu ne sais qu'espérer. La vie, c'est demain, demain, c'est loin. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu dois qui te porte. laisse-le t'emmener vers ton désir. Tu es la route, la poussière, le plaisir. Ce que tu veux vivre, tu le vis.
Bonjour, bonjour. Alors, c'est ça, je parlais en même temps. Bon, alors, avec Monsieur Bruno Ronfard, qui est directeur général de Qui Roule. Bonjour.
Bonjour.
Alors, effectivement, on parle de cet organisme qui, c'est les 40 ans, c'est ça? C'est pas les 40 ans, non?
C'est
pas...
Non, c'est 44 ans.
44 ans, voilà. Ben, c'est parce qu'il me semble que
on a été fondé en 79.
On parlait de Mira tantôt, puis c'était les 40 ans, mais vous, vous étiez pas loin, 44 ans. D'accord. Alors, effectivement, oui, depuis 1979, c'est ça, cet organisme qui travaille à améliorer l'accessibilité du tourisme et de la culture aux personnes à capacité physique restreinte. Alors, évidemment, c'est une mission très, très, très importante. Alors, parlez-nous-en, justement, de cette mission.
Mais je voudrais commencer par justement 79, André Leclerc, un petit gars du Saguenay qui est né avec une paralysie cérébrale et qui dit, il n'a pas encore 20 ans, et qui dit, moi, c'est pas parce que je suis en chaise roulante que je ne veux pas voyager, que je ne veux pas sortir, que je ne veux pas voir du monde, que je ne veux pas voir des paysages, on le comprend.
Et, oui.
et c'est son intuition géniale. Et donc, il dit, moi, je ne veux pas être un numéro des services sociaux. Et donc, il fonde Qui Roule. Et il fonde Qui Roule... Et il se dit, moi, je veux qu'on rende accessible le plus possible de lieux touristiques, d'événements culturels pour que les gens puissent y aller, pour que tout le monde puisse en profiter. Il y a pas, c'est pas réservé à quelques-uns, le tourisme. C'est pour tout le monde et ça doit être accessible pour tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait donc, tout au long de ces années. Puis Qui Roule continue aujourd'hui. Et on a sur notre base de données à peu près 4000 sites qui sont recensés ouais. en accessibilité.
Quand même, parce que j'avais des... en fait, il y avait des statistiques, d'ailleurs, que j'ai recueillies sur votre site, parce que vous avez plein de documentation sur le site de Qui Roule, et qui disait que le nombre de personnes de 15 ans et plus vivant avec un handicap au Canada en 2017, là, c'est quand même pas récent, malgré tout, a atteint 6,2 millions de personnes, soit 22 % de la population. C'est pas rien, là.
C'est pas rien, c'est des statistiques qui sont pas récentes. Les prochaines vont sortir cette année.
Ah, d'accord.
On va les avoir cette
ouais.
année, les plus récentes, mais si on ajoute à ça ces 22% qui sont recensés. Il y a des tas de gens qui, à cause de, par exemple, à cause d'un vieillissement, à cause de d'autres circonstances de la vie, se retrouvent en situation de handicap. Donc, c'est beaucoup plus large. Et puis, c'est tous les gens qui accompagnent aussi. Et ça peut être aussi, on s'aperçoit, nous, quand on parle de tourisme, quand on fait maintenant des pentes, par exemple, au lieu des escaliers, les familles avec poussettes sont en général très heureuses de
ben
les
oui,
emprunter.
Forcément, les petites familles là avec.
Exactement. Quand on a des salles de bain qui sont plus grandes, les familles pareillement, et avec des douches sans seuil, les familles sont très contentes avec leurs enfants. Donc finalement, on sait, oui, 22% peut-être dans les statistiques, mais c'est une très large part de la population qui est concernée.
Tout à fait, parce que population vieillissante, alors c'est sûr, hein, plus de gens aussi se déplacent en marchette, hein, faut bien le dire, et puis en déambulateur, voilà, pour dire le bon mot, mais en fait, c'est ça, donc effectivement, puis bon, des gens qui, ça peut être des femmes enceintes, ça peut être plein de choses finalement, vous avez raison, alors, donc comment tout ça a évolué par la suite, là, depuis 1979?
Alors, ce qui a évolué, c'est que ça s'est professionnalisé, ça a été reconnu en 85, par le ministère du Tourisme comme l'interlocuteur privilégié en matière d'accessibilité, le partenaire.
Vous êtes devenu vraiment une référence.
Et on est devenu une référence et on a une expertise qui s'est développée, bien sûr, parce que aussi le code du bâtiment a évolué, la société a évolué. Heureusement, on a des règles plus strictes aujourd'hui Et donc, on a évalué avec ça. Et l'expertise aussi, on a reconnu des choses dont on ne faisait pas attention dans le monde des personnes handicapées, comme par exemple l'autisme. C'est quelque chose qui est bien plus présent aujourd'hui, dont on fait beaucoup plus attention qu'on ne le
fait. En fait, on fait plus attention aujourd'hui, mais rien n'est parfait non plus. Hein. Il y a encore des erreurs qui se commettent. On parle du code du bâtiment, mais il y a encore des erreurs régulièrement. Il s'agit qu'un nouveau bâtiment voit le jour et puis finalement, on s'aperçoit que il y a des failles aussi au niveau de l'accessibilité.
Tout à fait. L'accessibilité, c'est un combat qui n'est pas fini et qui est pas. Et parce que, comme vous le dites, même si le code a évolué, il n'est pas parfait, mais il n'est pas toujours respecté. Alors ça, c'est quand même assez incroyable qu'on ait des règlements qui ne sont pas parfaits, mais qui sont meilleurs que rien et qui ne sont même pas respectés. Donc c'est sûr que l'accessibilité, repenser les villes en pensant à l'accessibilité pour tous, c'est un enjeu qui n'est pas encore gagné.
Oui, c'est ça. Et de la part des gouvernements, il y a quand même cette ouverture, mais encore là, est-ce que vous avez beaucoup de support? Est-ce que vraiment il y a beaucoup de progrès qui s'est fait?
Oui, on a énormément de support du ministère du Tourisme. Et là, le ministère du Tourisme est pionnier en matière d'accessibilité. Il a créé un programme d'accessibilité des établissements touristiques que Kéroul gère, qui est un programme de subvention et qui permet de mettre aux normes des lieux et des événements. Et c'est un programme qui marche, qui change les choses. Mais la tâche est immense. C'est ça, ça dont on s'aperçoit. Mais il y a des très belles réussites. Et il faut aussi les dire, je pense par exemple au parc régional de la Rivière-Gentilly, dans le centre du Québec, qui est vraiment où il y a une pente, un sentier en pente très très douce qui a été aménagé avec des moments de repos. Il y a des chalets qui sont complètement accessibles. Il y a des audio-guides pour accompagner la marche. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a du matériel adapté pour se promener. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, il y a des endroits qui ont fait des choses merveilleuses. Et il faut les faire connaître.
C'est ça. Donc, et vous êtes là pour les faire connaître aussi, en fait. C'est sûr qu'il y a quand même des retombées économiques importantes, là, il faut le dire. Si en 2017, on parlait, enfin, de statistiques comme 22% de la population qui est peut-être à mobilité réduite, façon de parler, là, et aujourd'hui, c'est sûrement, avec le vieillissement de la population davantage, bien entendu, comme vous le dites, on aura des statistiques plus récentes cette année. Ça veut dire aussi des retombées économiques au niveau du tourisme. C'est important, on ne peut pas négliger cette clientèle-là non plus. Et puis, évidemment, l'accessibilité, c'est essentiel, c'est fondamental dans nos droits aussi.
Tout à fait, il y a des retombées économiques, effectivement, faut le dire. Faut aussi prendre cet aspect-là, parce que c'est une clientèle qui a longtemps été négligée ou oubliée, qui l'est moins aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup à faire. Mais je dirais que c'est aussi quelle société au Québec on veut construire. On veut inclure tout le monde, et puis je pense que si on demandait aux gens, tout le monde est d'accord là-dessus, mais il y a des choses concrètes à faire. On organise des journées de réflexion à Victoriaville au mois de septembre parce que on veut davantage inclure l'accessibilité dans le développement durable. Développement durable, on parle souvent de la partie environnementale et puis on le voit avec les feux de forêt, c'est très important. Mais il y a la partie sociale qui est la partie d'une société faite pour tous, qui est durable parce qu'elle inclut tout le monde. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant et c'est pour ça qu'on fait ces journées à Victoriaville. Victoriaville qui a été la première ville Destination pour tous, qu'on a baptisé Destination pour tous à Kéroul après avoir évalué l'ensemble de la ville et des infrastructures parce que c'est la ville qui était la plus accessible au Québec.
Donc, alors, moment de réflexion qui s'en vient en septembre, très important, toujours de réunir plusieurs acteurs, différents milieux, milieu du tourisme, ça va de soi. C'est votre principale préoccupation. Alors, l'accessibilité, comme vous le dites, construire un monde meilleur, inclusif, et faire connaître nos belles régions. Alors, diriez-vous, est-ce qu'il y a des projets phares? Vous en avez glissé un mot, là, mais il y en a plein d'autres. C'est ça. Je pensais, d'ailleurs, on parlait l'an passé de la fameuse pisciculture qui a été dans les Laurentides. Là. On a aménagé toute une passerelle qui est accessible aussi.
Tout à fait. Alors, dans les Laurentides, il y a le sentier des Cimes aussi, qui est magnifique et qui est accessible. C'est un sentier, donc on peut monter et on est au-dessus de la cime des arbres. On a fait tout un projet avec les Économusées, qui sont une spécialité québécoise, on n'en parle pas assez. C'est un réseau qui s'est engagé à être 100% accessible et qui a actuellement à peu près les deux tiers, trois quarts de ses membres, donc des lieux qui sont accessibles. Ce sont des... Il y a des lieux dont il faut profiter. Puis je le redis, Kerroule, venez sur le site de Kerroule, c'est là où vous pourrez avoir l'information. Et nous, on veut vraiment que les gens sortent. On ne veut pas seulement que les choses soient accessibles, on veut que les gens en profitent.
Mais
que les
oui, gens, exactement.
Puissent se sentir bien, été comme hiver, à l'extérieur.
Oui, c'est ça. Et en même temps, ben, c'est ça, ça peut toucher autant même des compagnies aériennes, ça peut toucher plein d'aspects là de
alors l'aspect du
transport
tout à fait l'aspect du transport est important et puis là il y a un gros travail à faire on le sait tous hein. Il y a eu le problème du transport adapté mais je veux dire on manque encore de souplesse dans le transport pour adapter à tous et là il y a beaucoup de travail à faire pour que oui il y ait du transport adapté qui soit à bon niveau mais aussi pour que si on veut rester un peu plus longtemps, une soirée où on se sent bien, on puisse le faire, qu'on ait d'autres moyens, comme des taxis ou des choses comme ça, qui puissent venir nous chercher.
Bruno Ronfard, écoutez, c'est parce qu'en fait, vous étiez pris dans le trafic, alors on aurait pu en parler encore plus longuement, mais on se reprendra assurément. Donc, Kerroule, plein d'informations sur votre site. De toute façon, suivez vraiment toutes les informations liées à votre organisme, parce que c'est passionnant et c'est important. Merci beaucoup et bon après-midi à tous. D'ailleurs, je vous dis à tout le monde. C'est ça, on se retrouve demain entre midi et 13h, l'émission Aime l'été. Alors, un autre beau rendez-vous avec nos invités, nos chroniqueurs et tout. Alors, ce sera un plaisir de vous retrouver. Ici Chantal Lavoie, au revoir, bon après-midi!